France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Clémentine. Alors moi j'ai lu et beaucoup aimé l'affaire Petit Prince. Dans cette histoire je trouve qu'on vit une véritable aventure et je trouve ça vraiment génial de pouvoir apporter ce petit côté fun et ludique aux jeunes lecteurs en les entraînant dans une enquête pour qu'ils puissent découvrir les secrets de ces plus grandes œuvres de la littérature jeunesse.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À qui parler des livres que l'on n'a pas cru ? C'est la question de votre book club aujourd'hui. Grâce à Clémentine Beauvais et sa nouvelle série de romans, notamment destinés aux adolescents, on enquête sur les trucs qui clochent dans les livres que l'on connaît pourtant si bien. Tenez, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, par exemple. On va lui faire passer un petit test d'expertise à Veillation et démêler cette histoire de chapeau ou de boa digéré par un éléphant, car il faudrait savoir à la fin. Heureusement, un certain Pierre Bayard reprend le métier de détective, vous avez le jeu de mots, et ne passera sur aucune dissonance injustifiée. Clémentine Beauvais est l'invitée de votre book club pour évoquer l'affaire Petit Prince. Ensuite, et pour clôturer nos résidences d'auteuristes, on trouvera Valérie Zenati sur notre chemin qui avait ouvert la saison de ses lectures en écho avec l'actualité. Aujourd'hui, elle vous propose de relire tout simplement tout Kafka. Et en fin d'émission, on cherche trouve de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Ensemble pour une heure, bienvenue tout le monde dans le book club. Bonjour Clémentine Beauvais.
Bonjour Marie.
L'affaire Petit Prince a paru aux éditions Sarbacane et vous l'écrivez en compagnie avec l'amitié de Pierre Bayard, on y reviendra. Ici tout commence par un portrait de vous en tant que lectrice, on rencontre nos invités en imaginant que peut-être on en apprendra davantage s'ils nous racontent les livres qu'ils ont trouvés ou pas trouvés sur leur chemin. Il se trouve que vous êtes assez sensible à la question de faire lire tout le monde, les plus jeunes, les moins jeunes, les un peu jeunes. Est-ce que vous avez été une jeune lectrice, Clémentine Beauvais ?
Oui, j'ai eu cette chance-là et donc c'est aussi d'ailleurs peut-être pour ça que ça m'intéresse tellement. Je lis depuis que je suis vraiment très petite. J'avais des parents qui étaient plutôt des scientifiques mais qui lisaient beaucoup.
Et donc, c'est marrant comme on oppose encore les choses.
Oui, mais c'est vrai.
C'est bien de le rappeler.
C'est vrai que je devrais pas dire ça. Mais bon, de fait, dans leur métier, ça n'avait pas grand-chose à voir avec ça. Mais c'est vrai qu'à la maison, il y avait des livres très différents en plus parce que c'est des lecteurs très différents. C'est mon père est vraiment lecteur. Un peu type homme né dans les années 50, c'est-à-dire polar, BD, livre d'histoire et livre de science. Et ma mère, de son côté, vraiment très classique, donc classique de fiction et aussi essai. Et les deux, je pense, avaient l'idée de lire tout le temps. C'était quelque chose de complètement normal à la maison. Et donc très jeune, j'avais des lectures à voix haute, des lectures de BD à voix haute.
De leur part.
De leur part, ouais.
On m'a pas mal la BD à voix haute.
Parce que mon père est un tintinophile forcené. Et donc j'avais des lectures à voix haute avec tous les accents, etc. Les voix du capitaine Haddock, etc. Et puis côté de ma mère, je pense qu'elle s'est beaucoup entiché des albums de l'école et loisirs de l'époque, de Claude Ponty, de tous ces gens-là. Donc j'en ai lu aussi beaucoup. Et puis après, à la BCD de mon école, j'ai découvert Tom Tom et Nana. Ensuite au CDI, j'ai découvert la littérature ado. Donc j'étais quand même très très lancée en termes de livres depuis toute petite. Ouais.
Est-ce que vous y cherchiez quelque chose de particulier ou c'était juste une curiosité à tout va?
Je pense que comme pas mal de grandes petites lectrices, il y avait vraiment un côté échappatoire très 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 fort. Moi, j'ai vraiment le souvenir de livres, notamment à l'adolescence, qui constituaient une espèce de rempart imaginatif contre la dureté du collège, lycée. Donc ça, c'est sûr que c'était vraiment très important.
Et puis plus ça marchait bien.
Ouais. C'était quand même une stratégie qui fonctionnait bien. Mais d'un autre côté, maintenant, je le regarde avec une pointe de d'ironie parce que c'est vrai que parfois, quand je me rappelle de ma consommation de livres, notamment à l'adolescence, je me dis que c'était pas le signe d'une santé mentale absolument en pleine forme. Pour l'adolescence. Mais pour l'enfance, j'ai un souvenir beaucoup plus insouciant de mes lectures. Je lisais beaucoup de livres drôles, beaucoup. Donc j'ai mentionné Tom Tom et Nana, mais il y avait aussi Fifi Brin d'Acier, Fantomette, la série des Bennett de Anthony Buckeridge qui a été très importante aussi. En fait, tous les livres drôles drôle. Et puis, évidemment, pour les plus petits aussi, Le Prince de Motordu. Donc, j'en ai gardé un rapport très ludique à la littérature en général. Et à l'adolescence, j'ai jamais été non plus très livre sinistre, en fait. C'était pas du tout mon truc. Moi, j'étais vraiment... j'aimais bien les livres drôles, les livres gays, les livres avec une certaine légèreté et insouciance à l'intérieur. Et j'aimais aussi beaucoup les polars.
Et vous aviez des copains, copines avec qui en parler? Ça faisait partie des choses que vous aimiez partager?
En fait, pas tellement. J'avais quelques amis, cousines, qui lisaient aussi pas mal, mais c'était une activité très solitaire jusqu'à, grosso modo, jusqu'à l'arrivée d'Internet et les forums Harry Potter notamment, qui ont été un peu mes premières découvertes du partage des lectures plus largement. Mais on n'avait pas
de... Vous avez quel âge à ce moment-là, vous?
Alors, les premiers Harry Potter sont sortis, j'avais 10 ans. Le dernier, j'avais 18 ans. Donc, ça a vraiment défini mon adolescence. Mm-hmm.
Et Internet à peu près en même temps, quoi. Du
exactement.
Coup.
Mm-hmm. Ouais. Je me souviens du jour où j'ai tapé Harry Potter sur Internet et que j'ai vu des pages et des pages. Je me dis, il y a d'autres gens qui lisent Harry Potter.
Qu'est-ce que vous faisiez sur ces forums?
Oh, on faisait des théories de fans qui, d'ailleurs, sont très, très, je pense, on était beaucoup une inspiration derrière l'affaire Petit Prince. On faisait des, parce que tous les livres n'étaient pas sortis. Donc, il fallait
expliquer juste pour les personnes qui nous écoutent ce que sont les théories de fans, parce qu'en effet, puisque vous le dites là, ce n'est pas sans rapport avec ce qu'on va évoquer tout à l'heure.
C'est très important à la vie de toutes et toutes fans de séries pas encore finies qui se respectent, mais d'ailleurs même aussi finies. Les théories de fans, ça consiste en fait entre personnes aficionados d'une même série ou d'un même auteur, de se demander s'il n'y a pas des choses cachées qu'on n'a pas encore repérées et qui pourraient servir à anticiper les prochains tomes, ou si tous les tomes sont sortis, ça peut être des théories alternatives sur en fait des choses que l'auteur ou le livre nous a cachées. Donc voilà, ça peut aller.
Que même l'auteur ou le livre ne savent pas.
Ne sait pas. Et voilà, alors aujourd'hui, ça se trouve plutôt sur des forums comme Reddit, et à l'époque, ça c'était des forums qui étaient spécifiques aux séries en question, et il y a certaines séries qui sont particulièrement apte à appeler des théories de fans. J'ai mentionné Harry Potter, mais il y a aussi des séries comme Les Orphelins Baudelaire, à mon époque aussi, qui étaient assez intensives sur ce sujet, les Philippe Pullman, etc. Plus l'univers est complexe et avec énormément de personnages, et plus il y a de trous dans lesquels on peut lire des histoires alternatives.
Qu'est-ce que vous avez trouvé dans Harry Potter de 10 à 18 ans qui vous a tenu si accroché à cette série littéraire, Clémentine Beauvais?
Je sais que c'est vraiment un cas unique de ma part, mais
non. C'est-à-dire, ah oui, non, pardon.
Non, justement,
mais c'est intéressant de savoir ce que chacune y a trouvé.
Ah là là, c'est compliqué.
C'est tellement massif, ce lectorat.
C'est une vraie question, ça. Je pense que c'est très difficile à expliquer. Je pense que c'est une combinaison de plein de facteurs différents. C'était une série qui a eu quand même le génie de combiner tout un tas d'histoires et de genres littéraires différents, de l'histoire d'école, comme on dit en anglais, la school story. Au polar, justement, au thriller. Il y avait de la fantasy, mais en même temps, c'est une fantasy qui est très, très, très réaliste, bizarrement, dans ses paramètres. Elle est toujours liée au monde, entre guillemets, réel, celui des moldus. C'est pas une fantasy complètement détachée, donc elle est assez, entre guillemets, facile d'accès. C'était drôle aussi, je pense qu'on parle pas beaucoup de l'humour d'Harry Potter, mais
en fait,
c'était...
ce moment, on parle surtout des sorties plus que de J.K. Rowling.
Ça, c'est sûr que malheureusement aujourd'hui, c'est très difficile de parler d'Harry Potter dans le terme.
Mais c'est pour ça que je le mentionne, c'est fait. Mais continuer à en parler.
Mais voilà, ouais. Non, ça, c'est sûr que aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de s'assumer en tant que fan d'Harry Potter. Mais malgré tout, ça a été tellement important pour notamment pour ma génération.
C'était donc vous parliez du rire.
Ouais, c'était une série drôle. C'est une série quand même extrêmement accueillante, c'est-à-dire que je pense que, et encore une fois, c'est triste d'ailleurs en lumière en regard de ce qu'est devenu J.K. Rowling, mais il y avait vraiment la notion pour de très nombreux enfants, adolescents de cette époque qui n'étaient pas forcément, qui n'entraient pas forcément dans les cases, d'avoir trouvé une maison. Et le fait qu'il y ait cette fameuse phrase « Poudlard sera toujours une maison », c'était très très important pour tout un tas d'enfants de l'époque. Et puis, c'était une série aussi qui mariait des codes... moi, je vois beaucoup de Disney, en réalité, dans Harry Potter. On n'y pense pas forcément à ces choses-là, mais je pense qu'on était aussi une génération biberonnée au Disney, du style, bon, que ce soit La Belle et la Bête, avec toutes les petites tasses qui s'agitent dans tous les sens, et les meubles. Et Harry Potter avait ce même type d'imaginaire...
qui rend magique les choses. Quoi,
ouais, exactement. Mmh.
Pour rappel, hein, dans La Belle et la Bête, dans le château de la Bête, la théière, les tasses, les meubles ont des âmes.
Le chandelier.
Voilà, le chandelier. Ils peuvent chanter, ils peuvent parler, faire des remarques, avoir un avis sur le monde. Et c'est aussi, je connais moins bien, mais ce qui se passe dans Harry Potter, c'est ça, c'est qu'il y a un espèce de monde magique au milieu des petits apprentis sorciers.
Ouais, ouais. Et puis tout était comme ça, doué d'une espèce de vie rigolote qui pouvait intervenir à tout moment. Et je pense qu'on était très préparés, en fait, imaginativement, à ce genre de monde-là.
Par Disney, c'est ça que vous
Par Disney, oui, et puis par tout un tas d'autres œuvres aussi. Je pense aux précurseurs comme Amandine Malabule, de Jill Murphy, qui était aussi important, Gresham Grange, de Anthony Horowitz. Il y a eu un certain nombre de précurseurs, mais Harry Potter a été le premier, je pense, à marier tout ça dans un univers extrêmement complexe et long. Et il faut quand même aussi se rappeler que c'était la première série à faire grandir ses lecteurs au fur et à mesure. C'était vraiment quand même très, très étonnant. C'est-à-dire que nous, on faisait les queue parties, les files d'attente à minuit pour aller chercher le nouveau tome. Il y avait énormément de grabuge autour de cette série qui a été la première à vraiment lancer ça, quoi.
Est-ce que vous cherchez toujours à rire en lisant Clémentine Beauvais?
Bah, pas toujours, mais c'est quand même important. Et je pense que maintenant, au stade de ma vie de lectrice où j'en suis, je pense que ce qui me frappe de plus en plus, c'est que le rire, c'est le nombre de formes que prend l'humour. Et en fait, l'humour, c'est pas nécessairement le drôle. Et c'est ça qui me frappe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des livres que je lis. Par exemple, je pense au livre Jean de Senabu Sonko, que j'ai lu il y a peut-être 2 ans quand il est sorti. C'est pas qu'il est drôle, ce livre, mais en fait, il utilise la langue de manière tellement inventive et radicale qu'en fait ça fait rire parce qu'on est surpris de on
se dit c'est un rire de joie.
Ah ouais,
un rire d'étonnement.
C'est pas possible en fait d'écrire comme ça. Et ça c'est quand même vraiment vraiment jouissif quoi. Et l'humour malheureusement en littérature, il est souvent on a l'impression que bon si quelque chose est drôle, c'est que ça doit être un peu bas de gamme. Il y a une variété de types d'humour et en plus on peut en mettre 10 différents dans la même page, il peut y avoir du pastiche, du scato, des courses-poursuites, un jeu de mots, de la parodie et tout ça ensemble fait une espèce d'explosion.
C'est délicieux, c'est quand même un cadeau que vous fait un livre s'il vous fait rire ou sourire, quelle que soit la manière, Clémentine Beauvais, donc ça marche.
Ah mais ça rince. Moi hier j'étais dans le train et j'ai lu Rumba Mariachi de Fabrice Caro qui vient de sortir, c'est un tout petit livre, ça dure 10 minutes à lire, qui est sorti aux éditions Esquif et je sanglotais de rire tellement que je n'arrivais pas à reprendre mon souffle.
Heureusement
j'étais toute seule dans ce wagon parce que c'était et en même temps, mais quel bonheur, on en ressort complètement lessivé dans le meilleur sens du terme.
Ouais, et reparti tout propre pour un tour. Voilà. Dans les pages de votre livre, il y a l'idée que peut-être il y aurait dans les livres qu'on lit ou dans les livres qu'on écrit des présages pour le futur, que ça peut exister en tout cas, qu'il faut se méfier des choses qui sont imprimées dans un texte parce que ça annonce peut-être quelque chose de nos vies. Est-ce que vous y croyez ?
Oui, alors ça c'est une théorie qui est développée par Pierre Bayard de Notre Monde, on en parlera sans doute, c'est l'idée que certains livres sont en effet des présages de ce qui va se passer avec leurs auteurs ou ce qui va arriver dans leur vie. Moi c'est sûr que ça m'est arrivé plusieurs fois, alors évidemment de manière un peu...
Avec les livres que vous écrivez ou que vous lisez ?
Avec les livres que j'ai écrits, ouais. Évidemment de manière un peu différente, c'est plus comme les rêves prémonitoires. On se dit tiens j'ai fait ce rêve et puis il y a un truc, il y a un détail de ce rêve, un machin qui va se réaliser. Et je pense que c'est pas complètement illusoire de se dire que toute personne pressent des choses qui arrivent dans sa vie, que ce soit des moments de crise existentielle ou des moments de doute ou des moments de grand changement. Et puis, l'idée que si on est auteur ou artiste, on va en imprégner ses œuvres inconsciemment,
oui,
ça paraît complètement illogique.
Ouais. Et puis par ailleurs, il y a un truc qui peut s'appeler l'inconscient et qui existe dans l'écriture et qui pourrait éventuellement, comme ça, arriver dans les livres qu'on lit ou qu'on écrit. Est-ce qu'il existe une photo de vous que vous avez en tête, comme ça, un livre à la main, tout âge confondu ?
Oui, il y en a beaucoup, beaucoup.
Si fallait en élire une.
En élire une en particulier. Je pense à une en particulier où je suis vraiment étalée sur un lit avec un exemplaire, me semble-t-il, de Mathilda. Mais c'est peut-être Charlie Chakotay. En tout cas, c'est un Roald Dahl avec un petit bandeau et tout affalé. Et je pense à celle-là tout simplement parce que c'est la plus représentative de ce que je faisais à l'époque. J'étais très souvent affalée. sur un lit.
Bon signe ou pas, vous nous conseillez de laisser nos enfants affalés?
Bah, en fait, c'est marrant parce que je me souviens que parfois...
Ça va avec ça, la lecture, parfois, ouais.
Bah ouais, on nous disait, mais sortez dehors, il fait tellement beau. Et moi, je dis, non, je veux pas sortir dehors. Je me souviens aussi d'une fois où j'avais reposé, je crois, j'avais reposé un fantomètre et immédiatement, que je venais de finir, et immédiatement pris un autre, et que ma tante m'avait dit, mais t'arrives à passer d'un livre comme ça à un autre comme ça sans pause? Et ça m'avait paru très bizarre comme question. Bah oui, évidemment.
Bah oui, évidemment.
On va pas faire une pause.
Pourquoi faire une pause? On va parler de votre livre à vous, Clémentine Beauvais, juste après ce petit rock'n'roll de 1985, interprété par Dorothée. C'est une chanson qui est sortie la même année sur le célébrissime album Allô, Allô, Monsieur l'Ordinateur, disque d'or de ce milieu des années 80, à la toute fin desquelles vous êtes née, vous-même, Clémentine Beauvais. Le disque fut écoulé à 100 000 exemplaires. La chanson s'appelle Détective privé, toujours sur le qui-vive, jamais fatigué, on m'appelle, j'arrive, c'est ça mon métier.
J'attends sous la pluie et pas moyen de me mettre à l'abri. Je compte les gouttes d'eau qui dégoulinent de mon chapeau. Ça passe le temps même si c'est un peu idiot. Qu'est-ce qu'il attend pour sortir du café? Qu'est-ce qui m'a pris de choisir ce métier? Car je suis détective, détective privé. Toujours sur le qui-vive, jamais fatigué. On m'appelle et j'arrive. Faut dire que là je sens que je suis sur un gros coup. Ça fait trois jours que je file, je gèle de mes roues. On peut pas dire qu'ils sont tombés de la dernière pluie. L'ennemi public numéro un c'est lui. Si je l'arrête on va voir ce qu'on va voir. Bonjour la gloire et bonjour les dollars. Car je suis détective, détective privé. Toujours sur le qui-vive, jamais fatigué.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, bien lire un livre ne nécessite pas forcément d'être un ou une experte, ni d'avoir le cerveau plein de mots latins, le cœur poussiéreux et le sourire rare. Pour prendre la littérature au sérieux, il suffit de se prêter à ses multiples jeux. Voilà l'état d'esprit qui règne dans la nouvelle série de romans que vous faites paraître, Clémentine Beauvais, dont je cite l'épilogue. Des enquêtes sur les trucs qui clochent dans les livres que l'on a lus et pas tout à fait cru. Le tome 1 enquête sur le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et qui enquête exactement? Pierre Bayard, un détective rangé des voitures mais qui va pas résister à une nouvelle affaire. Edith, sa chienne, amie et associée, flanquée de deux adolescents débrouillards et curieux, j'ai nommé Midi Pile et Badcass. L'affaire Petit Prince, écrit avec la complicité du vrai Pierre Bayard, apparu aux éditions Sarbacane. On en parle avec vous. Et puisque d'emblée on va parler du vrai Pierre Bayard et du détective Pré-Bayard, écoutons la voix de, bah, je ne sais plus qui, du coup, l'un d'entre nous.
J'ai fondé une méthode critique qui est fondée sur le soupçon. Et par exemple, j'ai écrit trois livres que j'appelle des livres de critique policière, dans lesquels je remets en cause, en doute, les affirmations d'un certain nombre d'enquêteurs et d'écrivains sur les criminels qui auraient réalisé certains forfaits. Donc toute une partie de mon œuvre est fondée sur la paranoïa, sur le soupçon, sur cette idée qu'on nous cache des choses et qu'on ne nous dit pas tout, en particulier dans les œuvres littéraires. Je crois qu'il y a en permanence en littérature des éléments de fausseté, de fiction, et d'une certaine manière je joue dessus puisque j'introduis moi-même de la fiction dans la critique. Mais surtout je procède à quelque chose qui s'appelle la critique interventionniste. Ce que je reproche à beaucoup de mes confrères, c'est de rester immobile face aux œuvres, d'être du côté de la réception, du commentaire, de l'admiration, de la philologie, mais de ne pas intervenir sur les œuvres. La critique interventionniste, elle intervient. Elle intervient, je le disais tout à l'heure, dans le domaine de la critique policière, en rectifiant les erreurs judiciaires. Mais elle va essayer aussi d'améliorer certaines œuvres et même d'améliorer les auteurs. J'ai consacré un livre qui s'appelle « Et si les œuvres changeaient d'auteur ?» où j'ai étudié par exemple « L'étranger de Kafka » ou « Le cuirassé Potemkin d'Hitchcock » pour montrer comment une réattribution pouvait faire percevoir certaines œuvres sous un jour nouveau et donc profiter aussi bien à l'auteur qu'à l'œuvre.
Dites donc, ce serait pas par hasard le serveur hocha la tête. Si, si, c'est Pierre Bayard, l'ancien chevalier. Non, non, il vit une vie tout à fait ordinaire maintenant. Vraiment, on n'aurait pas dit à le voir comme ça, mais il n'y avait pas si longtemps, Bayard avait été connu, très connu. Le plus connu des chevaliers de lecture experte de France, et je n'ai pas besoin de vous dire à quel point la chevalerie de lecture experte est respectée dans ce pays-là. Ah, combien de lettres il recevait à l'époque, tendues en éventail par la gardienne de l'immeuble qui lui disait avec un sourire « Décidément, monsieur Bayard, vous en avez des admirateurs ». Mais ça, c'était avant. Car voilà bien des années que tout avait changé, qu'il avait été sommé d'arrêter ses activités et qu'il menait avec Edith une existence rangée et sans danger. Jusqu'au matin, du moins, où commence notre histoire. « Ça ne peut plus durer », s'exclama Bayard en débarquant dans l'appartement. Le journal brandit au-dessus de sa tête comme une torche olympique. « Edith, mamie, nous nous encroutons. Et je sais que vous le pensez aussi. » Oui. Edith le pensait aussi, mais Edith, contrairement à Bayard, savait contrôler ses émotions, notamment les grisâtres et les grinçantes, celles qui lui soufflaient des « si seulement », des « ah, quand je pense ». Les enquêtes littéraires lui manquaient-elles? Certes, oui. Regrettaient-elles leur vie passée? C'était tout naturel. Ressentaient-elles parfois un chatouillis dans la nuque quand, au détour d'un roman, elle tombait sur une phrase louche, un silence suspect? Cela pouvait arriver. L'aurait-elle avoué à Bayard? Elle était bien trop fière. La voix de Pierre Bayard dans une archive de 2017 au micro d'Augustin Trapenard qui rit. Ça aussi, c'est agréable de rire dans une émission de radio. C'était dans Boomerang sur France Inter. Et juste après, un extrait au début de l'affaire Petit Prince, votre livre, Clémentine Beauvais, pour entendre votre humour d'emblée, votre langue, l'état d'esprit dans lequel on entre immédiatement quand on ouvre ce livre et quand on ouvre cette affaire. Que vient faire Pierre Bayard dans l'affaire, justement? C'est un rappel de qui il est et de ce qu'il publie comme texte et ce qui vous intéresse dans ce qu'il publie comme texte.
Donc le Bayard de notre monde.
Le Bayard de notre monde, commençons par lui.
Pierre Bayard, c'est un universitaire et aussi un essayiste qui a écrit de très nombreux livres. Je crois qu'il en a à peu près 24-25 actuellement, plus évidemment beaucoup d'articles, et qui est un peu un essayiste iconoclaste dans le domaine de la critique littéraire, puisque donc, comme il l'explique là-dedans, dans cette archive, il s'intéresse à des questions que la plupart des commentateurs littéraires ne posent pas. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe si les œuvres changent d'auteur? Qu'est-ce qui se passe si on essaye d'abréger à la recherche du temps perdu, parce que c'est quand même un petit peu long? Qu'est-ce qui se passe si on réexamine ou si on rouvre de grands dossiers de la littérature policière du monde entier et qu'on s'aperçoit que c'était pas du tout les coupables qu'on avait supposés et que les vrais coupables courent toujours? Et moi, j'ai toujours adoré les textes de Bayard depuis le jour où je les ai trouvés. Je me suis tout de suite identifiée beaucoup à cette manière de faire, qui est à la fois, il a en fait un humour très britannique qui, moi, me parle beaucoup et puis qui est très pince sans rire, et on ne sait jamais exactement s'il est complètement sérieux ou pas. Ça me plaît beaucoup comme manière d'aborder les textes. Et puis surtout, c'est un geste en fait intellectuel qui est vraiment lié à une pratique très intensive du texte en réalité. Donc il faut vraiment lire, relire, re-relire le texte, le lire dans tous les sens, le lire, le secouer jusqu'à ce qu'il y ait des sens qui sortent dont on savait même pas qu'ils étaient là-dedans. Et ça m'a tout de suite beaucoup parlé, parce que justement, on parlait tout à l'heure des théories de fans et des choses comme ça. En fait, j'ai reconnu ce geste intellectuel de ce que je faisais moi et de ce qu'on était beaucoup à faire en tant qu'adolescent. Et en creusant plus, je me suis aperçue qu'en fait, pour moi, c'était vraiment une forme de lecture éminemment enfantine, au meilleur sens du terme. C'est-à-dire que les enfants qui sont les plus grands relecteurs au monde, il n'y a pas un critique littéraire qui a autant relu son texte de prédilection qu'un enfant a relu Petit Bleu et Petit Jaune. Et en fait, les enfants ont cette pratique intensive du texte qui leur permet de poser des questions, d'imaginer des alternatives à la narration qui leur est proposée. Et donc, ça faisait des années que je me disais, mais il faut faire un truc de la critique bayardienne en jeunesse. Et un jour, j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et à écrire à Pierre Bayard, que je ne connaissais pas, pour lui dire, est-ce que ça vous dirait qu'on planche sur un projet jeunesse? Et à ce moment-là, je pensais plutôt à quelque chose du genre de l'essai, et puis finalement la fiction s'est imposée, parce que je me suis dit, non mais en fait, il y a une trop belle occasion. On va faire un détective, ou plutôt un détective, qui va aller examiner des grands classiques de la littérature jeunesse, évidemment, et y trouver des choses qui n'avaient jamais été vues avant. Et surtout, il faut que le mystère, la résolution de ce mystère-là, soit liée à la résolution d'un mystère à l'intérieur du monde de Bayard lui-même, de mon personnage. Donc voilà, donc chaque tome est à la fois un mystère de type polar, un kidnapping, un meurtre, de tout un tas de crimes absolument odieux, et qui ne peuvent être résolus que si l'on éclaircit la grande énigme du classique en question.
Donc il y a quelque chose qui relève en effet de cette paranoïa dont parlait Pierre Bayard. C'est ma méthode. Ma méthode, c'est de penser qu'on nous cache des choses et donc de relire cette idée-là. À partir du moment où vous lui proposez cette aventure d'enquête sur des grands classiques de la littérature, comment est-ce que vous les choisissez ? Donc là, on est sur Le Petit Prince. Je sais qu'il y aura Peter Pan et on va pas dire les autres parce que on va pas dévoiler les futures enquêtes. Je ne le sais pas de toute façon. Mais qu'est-ce qui vous emmène vers le grand classique du Petit Prince, par exemple ?
Le Petit Prince, ça s'est imposé de dire. Exactement. Je pense que c'est vraiment, enfin, c'est l'œuvre de littérature jeunesse la plus vendue au monde, probablement la plus connue au monde, peut-être petite rivalité avec Alice au Pays des Merveilles, évidemment, mais Le Petit Prince, c'est tellement un monument. C'est le deuxième livre le plus vendu traduit après la Bible, enfin. La postérité de ce livre est absolument incroyable. Et c'est un livre qui est très, très étonnant, très particulier. Et il y a énormément de silences, d'ellipses, de trucs qui clochent. Et puis pour moi, qui l'ai lu en tant qu'enfant, et pour de nombreux enfants qui le lisent en tant qu'enfant, je me rappelais quand même cette perplexité devant cette première page du Petit Prince qui nous affirme qu'un enfant voit évidemment dans ce chapeau un boa ayant avalé un éléphant. Et on se dit, non en fait mec,
non, moi, mec c'est un
enfant,
chapeau.
C'est juste un chapeau quoi. Et le sentiment vaguement offensant en plus de se faire déclasser comme adulte, alors que clairement,
tout le monde voit
c'est vraiment pas du tout un boa qui a avalé un éléphant. Et voilà, donc c'était un des trucs qui clochait, mais il y avait aussi un autre trou dans Le Petit Prince qui m'avait toujours un petit peu... embêtée. Je me disais, il y a quand même un truc qui manque dans cette histoire où tout est organisé pour nous faire croire à ce narrateur-là. Comment ça se fait qu'il manque un objet tellement important qui semblerait pourtant évident et qui n'est nulle part. Je ne vais pas vous révéler lequel, évidemment. Et donc, l'affaire Petit Prince tourne autour de ça et de ce grand classique. Pour moi, c'était vraiment évident que ça allait être le premier.
Mais vous repartez de vos propres souvenirs de lectrice.
Non, je l'avais lu et relu depuis parce que je l'avais étudié aussi quand je faisais mon doctorat, etc. Donc, je le connaissais quand même assez bien, Le Petit Prince. Par contre, les autres, c'était plus délibératif en réalité parce que il y a beaucoup, beaucoup de classiques qu'on peut choisir et la critique policière peut s'appliquer à de très nombreux types de textes. Évidemment, ça n'a pas besoin d'être des romans policiers. Donc, on a beaucoup réfléchi. Moi aussi, le deuxième, c'est Peter Pan que j'adore. C'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre absolu de la littérature jeunesse. Donc c'était un bonheur de travailler sur lui. Peter Pan est aussi extrêmement sombre, très sordide. Donc le deuxième va faire plus peur. J'espère que ça ira. Vous allez pas avoir trop peur.
On adore apparemment. Enfin, manifestement, moi je découvre combien les enfants aiment avoir peur en lisant. Donc voilà,
bon, ça va.
On s'amusera. Et il y a aussi quelque chose, on l'entend dès le début de votre livre, dans l'affaire Petit Prince, il y a le personnage Pierre Bayard et le couple d'amitié, d'association, couple tout court qu'il forme avec Edith. Et on sent que vous avez plaisir à le camper dans un premier temps, avant qu'on se lance vraiment dans l'affaire. Il y a vraiment l'idée de bâtir un personnage, Clémentine Beauvais, ce détective. Comment est-ce que vous l'avez imaginé? Avec quel goût? Et comment est-ce que vous êtes amusée, parce qu'on le sent, à l'écrire ce personnage-là?
Je pense que quand on crée un personnage de détective, il y a toujours tout un tas d'ancêtres qui nous regardent et qui le regardent. Donc c'est rigolo de faire de s'inspirer de ces personnages qui existent déjà. Évidemment, on pense à Sherlock Holmes, à Poirot pour le côté un petit peu ridicule. Moi, j'étais très fan, je reste très fan de Jérôme Bloch, qui est une série de BD que j'adore toujours, avec un détective qui avait comme associé ou partenaire Babette. Enfin, qui a toujours, parce que ça continue cette série. Et donc, j'aimais bien l'idée d'avoir un couple de détectives qui soient tous les deux intelligents, parce que Watson, c'est un peu un faire ou pas le voir quand même, on va pas se mentir. Et donc, je trouvais ça rigolo de travailler là-dessus. Puis, je voulais que ce soit quelqu'un qui soit à la fois attachant et en même temps, par certains aspects, un peu absurde ou un peu ridicule, parce que je voulais déployer autour de lui toute une équipe. Donc il y a lui, il y a Edith, mais il y a aussi deux enfants, Minuit Pile et Badcass, qui devaient être très importants tout de suite et qui devaient avoir aussi leur mot à dire, leur énergie à apporter. Donc ils ne pouvaient pas remplir la totalité de la mission de détection.
Mais d'ailleurs, il y a plein de choses comme ça. Par exemple, Edith qui refuse d'être considérée juste comme l'assistante de Bayard. Il y a les noms des personnages. Il y a un personnage qui s'appelle Roman, un personnage qui s'appelle Mieux, Midi-Pile, Badcass. Vous, il y a quelque chose de très extraordinairement créatif autour de ces figures-là. C'est un projet collectif, c'est pas juste un détective solo qui va se coltiner l'affaire. Il y a vraiment à boire et à manger pour des lecteurs et lectrices adultes, Clémentine Beauvais. Comment est-ce que vous travaillez toutes ces strates-là?
Bah, en fait, les personnages, ça me paraît très important, en effet, qu'il y ait plein de profils différents qui apportent différentes choses. Donc là, enfin, moi, je suis une grande lectrice de Fantomètre. Dans Fantomètre, si c'était que Fantomètre, on s'ennuierait vachement, en fait, parce qu'elle est très sérieuse et elle est cool. Elle fait des supers acrobaties. Mais si elle n'était pas avec Œil de Lynx, le journaliste, qui lui apporte des clarifications, si elle n'était pas avec évidemment Ficelle et Boulotte, qui sont hyper rigolotes et qui font une espèce de duo un peu à la Laurel et Hardy. C'est pareil dans les méchants. J'aime bien distribuer les rôles de méchants. Dans les méchants, il y a Élise Mieux, qui est donc la présidente de la chevalerie de lecture experte de France.
Qui s'appelle Mieux. Enfin, je sais pas, moi. Déjà, Élise ça, Mieux. Moi, je ris beaucoup, déjà, en fait.
Ouais. Bah ouais.
Élise Mieux.
Élise Mieux, bah oui. Voilà. Et Élise, elle est, ça y est, vous l'avez.
Non, je l'avais déjà, mais je sais pas, je ris, quoi.
D'accord. Et alors, parce elle,
il y a plusieurs. Bon, voilà,
elle est complètement psychopathe, celle-là. C'est une sociopathe dangereuse. Mais elle est avec elle a une espèce de bras droit qui s'appelle Roman Noir, qui est une espèce de colosse. Pâteux et blanchâtre de 2 mètres de haut qui aspire peut-être à des travaux plus intellectuels, mais tout ce qu'il fait c'est défoncer des portes, et c'est aussi un méchant, mais en fait il n'est pas aussi méchant. J'aime bien cette idée-là de distribuer comme ça les rôles sur plusieurs personnages qui ont chacun un peu leur personnalité et qui vont permettre en tout cas de distribuer l'énigme, parce que différents personnages peuvent aller mener une énigme différente, comme ça c'est pas monologique, quoi.
On va écouter la voix de Ludivine. Elle a lu l'affaire Petit Prince et elle vous pose des questions de méthodologie, Clémentine Beauvais.
Bonjour le Book Club, bonjour Clémentine. Alors moi j'ai lu l'affaire Petit Prince. Je peux même vous dire qu'en étant adulte, j'ai beaucoup ri. J'ai été surprise et j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture. Alors moi je voulais juste savoir comment vous aviez fait en fait pour construire l'histoire. Parce que j'imagine qu'il faut relire et tenter en amont de décrypter, identifier ou imaginer certains mystères. Donc est-ce qu'il y a un autre travail de recherche plus approfondi à faire? Écoutez, merci pour votre réponse.
Merci à vous, Ludivine, pour cette question et pour ce témoignage de lecture. J'ai beaucoup ri, même si je suis une adulte, dit Ludivine. Un peu de méthodologie. Concrètement, il y a l'enquête fictive, mais vous travaillez comment sur les textes sur lesquels vous enquêtez, Clémentine Beauvais?
Alors, on a de fait un peu fait une méthodologie sur le site de Sarbacane, qui est l'éditeur. On a publié des contenus pédagogiques à destination principalement des enseignants enseignantes, justement pour essayer de voir comment est-ce qu'on mène une enquête policière en classe.
Il y a un kit, vraiment.
Il y a un kit de détective avec une loupe à trous du texte, avec un truc un peu style police line do not cross qu'on met sur le livre pour dire attention, enquête en cours. Et on peut commencer par quelque chose de très simple qui est-ce qu'il y a dans le livre une disparition, un truc inexpliqué, une personne qui disparaît et qui est pas forcément mentionnée dedans? Ou alors, vous savez, au début d'une histoire, souvent on a, ses parents étaient morts. Et donc, cet orphelin, continue. Et en fait, on l'accepte comme ça. Mais par exemple, ça, le moindre truc comme ça devient suspect. C'est-à-dire qu'on se dit, attends, c'est quand même chelou. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Combien de contes commencent par la mère est morte et on ne sait pas ce qui lui est arrivé?
Absolument.
Et ça, il y a juste la marâtre qui arrive.
Donc, en fait, on va lire le texte avec une espèce de lecture que Pierre Bayard de Notre Monde appelle hyper soupçonneuse, de l'hyper soupçon. Et donc, on va se demander à chaque fois, mais est-ce que le texte nous dit tout la vérité? Et ensuite, à partir de ces trous qu'on identifie, on va commencer à élaborer des hypothèses concernant l'un des mystères qu'on aura trouvé. Disons, par exemple, comment ça se fait que ce personnage-là a disparu? Et alors, s'il a disparu, qui avait intérêt à sa disparition? Là, c'est vraiment de l'ordre de l'enquête policière. Il y a combien de suspects? Qui aurait pu avoir un avantage à ce que ce personnage-là débarrasse la table sitôt? Quelles sont les conséquences, etc. Et on va tester ces hypothèses à la lueur du texte. Et ce qui est très important, c'est qu'évidemment, on ne modifie pas le texte et surtout, on ne modifie pas son système. Donc, il ne peut pas y avoir tout à coup des extraterrestres qui se sont emparés d'un personnage en plein milieu du Père Goriot. Ça, c'est pas possible. Par contre, on va avoir en accord avec le système du texte ce qui pourrait fonctionner. Et ce qui est super intéressant à ce stade-là, moi, ce que j'adore, c'est qu'on peut aller chercher dans des formulations du texte des phrases ambiguës, des choses qui sont, des choses qui pourraient passer pour
corroborer votre hypothèse.
Exactement.
Et dans le texte.
Et à partir de là, on va faire émerger des vérités alternatives. Il faut évidemment que ça soit convaincant, parce que dans la critique policière, il y a un gros aspect quand même de présentation aux autres personnes, qui vise à dire, bah voilà, maintenant j'ai trouvé une solution alternative, et il faut que toute personne un peu raisonnable et honnête soit capable, soit capable de l'accepter, en disant, oui, j'accepte que cette solution est logique. Et on peut évidemment trouver des trous à nouveau avec cette solution, etc.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment question de la suspension de notre jugement quand on entre dans la fiction, de notre capacité à accéder à des mondes imaginaires, de la manière dont on accepte de la littérature, des choses fantasques, non argumentées, fictionnelles, c'est le propre. Il y a quelque chose qui nous fait revenir avec cette enquête à l'essence même de la place de lectrice et de lecteur qu'on occupe, Clémentine Beauvais.
Oui, parce que ça joue avec ce qu'on appelle le pacte fictionnel, qui est l'idée que quand on entre dans un texte, évidemment, le narrateur ne va pas tout nous dire, parce que c'est pas intéressant qu'on sache que les personnages vont aux toilettes. Et puis, ils vont nous dire, par exemple, s'il nous décrit une cuisine, il va nous donner quelques éléments, et le reste, nous le meublons de notre propre imagination. Mmh. C'est un art extraordinaire du langage, qui est l'art de l'évocation. Et évidemment, tout texte n'est qu'une série de trous qui sont reliés entre eux par deux, trois mots qui nous permettent de peindre le reste avec notre imagination. Mais évidemment, parfois, les textes, soit par roublardise assumée, ou alors par omission, oublie de nous mentionner des éléments un peu importants. Donc, si le texte commence à nous dépeindre une cuisine en nous donnant seulement trois éléments, je sais pas, qui nous donne dans notre visualisation une cuisine assez bourgeoise avec des jolis robinets, ceci, cela, mais qu'on apprend 30 pages plus tard qu'en fait ça se passe dans un paquebot qui est au fond de la mer et que la cuisine en fait est parcourue d'être sous-marin, on aurait bien aimé le savoir plus tôt, on va dire. Et parfois, les livres le font exprès. Ça, c'est qu'on a des narrations non fiables. Et nous, détectives, on part du principe que même dans les livres qui ne le font pas exprès, il y a peut-être des choses qu'on a un peu trop rapidement déduites de silence du texte.
Et ça donne à parler, évidemment, les silences du texte et les trous du texte. Et c'est un des aspects savoureux de votre livre, L'affaire Petit Prince, Clémentine Beauvais. C'est toutes les conversations qu'il y a à l'intérieur de cette équipe de petits et grands enquêteurs. On écoute un nouvel extrait. Notre ami Minuit Pile a oublié bien des détails en nous racontant l'histoire ce matin. Elle est beaucoup plus complexe que ce qu'il nous en a fait voir. Normal pour un apprenti détective, dit Bayard, plein de grandeur d'âme. Certes, et ces oublis sont intéressants car ils nous permettent de voir ce qui, justement, ne retient pas l'attention dans Le Petit Prince. Par exemple, il a admis lui-même avoir oublié le tout premier dessin. Moi, je dois dire, je l'avais oublié. Moi aussi, dit Bayard. Et tout le livre est comme ça, plein de moments bien connus qui font oublier les autres. Les baobabs, la succession des planètes, la rose, le renard, le serpent. Tous ces tubes-là sont charmants et fonctionnent très bien, puisqu'ils appartiennent à la magie du Petit Prince. Inutile de se poser mille questions sur leur cohérence. Mais côté pilote, c'est beaucoup plus étrange. Minuit Pile nous a déjà montré les bizarreries du début. Moi, ce qui m'intrigue, ce sont les toutes dernières scènes où le petit prince parle au serpent pour planifier sa morsure. Mort, sûr, calembourisa Bayard. Rien n'est moins sûr, rima Edith. Voilà ce qui arrive. Le pilote et le petit prince ont soif. Ils tombent sur un puits, et déjà, ça, c'est étonnant, comme le pilote l'admet lui-même, il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert. Surtout qu'ils sont à 1000 miles de toute région habitée, comme ils le répètent à longueur de temps. Pourtant, ils trouvent un puits, au petit matin. Puis le puits lui-même est singulier. Il ne ressemblait pas aux puits sahariens. Les puits sahariens sont de simples trous creusés dans le sable. Celui-là ressemblait à un puits de village. Mais il n'y avait là aucun village et je croyais rêver. Pourtant, la poulie et l'eau se sont prêts. Le puits est clairement encore utilisé. Il a soif, il délire. Donc il rêve, en effet. Non, moi je trouve qu'on dirait plus un soudain accès de lucidité qu'un soudain accès de délire, comme s'il apercevait tout à coup qu'il était tout le long juste à côté d'une zone habitée. Et cette demi-lucidité ne fait qu'augmenter jusqu'à un moment très révélateur, à peine quelques pages plus tard. Le petit prince est assis sur un muret. On se demande bien d'ailleurs pourquoi il y aurait un muret dans le désert. Il est en train de parler au serpent. Le pilote n'entend pas le serpent, il entend seulement le petit prince lui répondre. Le petit prince est en train de demander au serpent de le mordre le lendemain. Le pilote, contournant le muret, voit le serpent jaune, la tête dressée. Il veut lui tirer dessus, mais le serpent s'enfuit. Et alors, à votre avis, que dit le pilote au petit prince dans cet accès de frayeur ? J'ai souri, pas que en lisant cette page, mais en lisant cette page, Clémentine Beauvais, parce que je me dis, tous les jours à cette table, on parle des livres, on parle des textes, on prend des phrases, on discute des phrases, on discute de ce que vous appelez les systèmes de textes, justement. Et c'est vraiment ce que vous mettez en scène dans cette compagnie d'enquêteurs. C'est des gens qui parlent du texte, quoi. Là, je le faisais avec mes mains, je sais pas si on entendait les extraits du texte que vous citez d'Antoine de Saint-Exupéry, mais c'est quand même une très ludique analyse de cette œuvre.
Oui, oui, ça c'était vraiment un parti pris qui était très assumé dans le texte, c'est-à-dire que l'idée c'est quand même que c'est de l'analyse littéraire. Et c'est un peu, moi je crois beaucoup, je suis aussi en sciences de l'éducation, et c'est vrai que je crois beaucoup aux manières ludiques de faire des apprentissages en fait. Et je pense que quand on s'amuse et quand on joue avec quelque chose, on peut le connaître de manière extraordinairement approfondie. Et pour moi c'était vraiment voilà, quand on lit les livres de la série, enfin en tout cas ce que j'espère, c'est qu'on en ressort avec une connaissance très approfondie de ce qu'on peut faire par rapport à un texte pour mieux le comprendre. Pas forcément celui-là, ça s'applique à tous les textes.
Exactement, en fait. Une forme de méthode et une joie de la question. Ce qu'on entend là, c'est aussi une joie de questionner le texte, c'est une joie de spéculer sur, c'est une joie du doute aussi qui est très
Et de s'autoriser aussi à le faire. Parce que je pense que surtout par rapport au classique, adultes comme enfants ont une sorte de révérence, une attitude très, très, très révérentielle on a du mal souvent à se détacher de l'idée que le classique, s'il a enduré à ce point, c'est parce qu'il n'y a rien de il y a rien dedans à rajouter, rien à enlever, aucune faille, alors qu'évidemment c'est exactement l'inverse. Au contraire, si un classique a perduré dans le temps, c'est parce qu'il y a tellement de trous que n'importe quelle nouvelle personne peut s'y glisser avec des visions complètement nouvelles de la vie. C'est pour ça qu'il y a des relectures féministes de textes qui ont été écrits il y a plus de 2000 ans. C'est parce que justement un classique a toujours quelque chose à nous dire, parce qu'on va mettre de soi dans les trous du texte. Donc c'est une opération de lecture.
Alors qu'est-ce que vous avez découvert, sans nous parler de l'enquête, mais vous, en tant que lectrice, Clémentine Beauvais, du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui en plus, on le disait en introduction, c'est un classique, mais il a aussi un aspect cryptique, qui se prête en fait à discuter de la morale, à se demander, par exemple, là dans ce dernier dialogue entre le Petit Prince et le serpent, pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de demande ou de désir de mort? Est-ce que vous avez relu autrement cette œuvre-là après avoir mené l'enquête avec toute votre bande?
Ah ben, ce qui est sûr, c'est que on lit un texte selon ses propres obsessions
aussi. Et son âge.
Et moi, enfin, d'une certaine manière, ça m'étonne pas que la solution à laquelle on soit arrivé, elle joue quand même beaucoup, c'est le cas de le dire, avec des thèmes qui m'habitent et qui me hantent toujours, qui sont l'enfance, la question du jeu, la question de ce qui, de la frontière entre l'imaginaire et la réalité, de cette capacité étonnante qu'on peut avoir de temps en temps à faire accepter les règles d'un jeu qui transforme toute la réalité. Et c'est pareil pour le deuxième, d'ailleurs, c'est rigolo. Enfin, ce qui est marrant avec les analyses littéraires, quelles qu'elles soient, c'est qu'une fois qu'on les a faites, on comprend pourquoi on a
choisi parfois, telle...
On peut dire qu'on a projeté telle chose dans le texte, mais en fait, c'est pas une mauvaise chose. Enfin, c'est parce qu'on y a lu une vérité qu'on voit avec particulièrement d'acuité dans le monde, que les textes qu'on lit deviennent imprégnés de cette réalité-là. Ouais.
Oui, parce qu'il y a quelque chose à un moment donné dans l'enquête, on s'interroge sur ce ton bizarrement sérieux du Petit Prince. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu d'enfant? Vous le citiez aussi au départ, avec l'idée de savoir est-ce qu'on voit un chapeau ou est-ce qu'on voit un boa qui digère un éléphant. Et il s'agit aussi de se demander ce qu'il reste d'enfance en nous, ce que fait aussi le Petit Prince en soi dans le texte, c'est-à-dire ce qu'il reste d'une capacité d'émerveillement. Il y a quelque chose qui est très intact, je trouve, dans l'affaire du Petit Prince telle que vous la menez, comme vous l'écrivez, c'est que le rapport à l'enfance semble plein de vitalité encore.
Oui, et complètement troublé. C'est-à-dire que le pilote est obsédé par l'enfance et par sa perte de manière hautement soupçonneuse. Donc c'est aussi de ça qu'il est question dans l'affaire Petit Prince. Ouais.
On va écouter une dernière archive, c'est celle de Marie-Aude Muraille. C'est un extrait de la masterclass qu'elle donnait sur l'antenne de France Culture où elle parle de littérature jeunesse.
J'ai trouvé cette citation qui va bien vous expliquer la différence entre l'écriture pour les adultes et l'écriture pour la jeunesse. Le problème des auteurs traditionnels est qu'ils présupposent que leur lecteur est immortel. Aussi garde-t-il l'intensité pour la fin. Je suis convaincue que mon lecteur est mortel. S'il achète mon livre et qu'il meurt à la page 5, j'aimerais que mon livre lui ait quand même procuré quelque chose. Je ne pense pas que mon lecteur de 10 ans va canner à la page 5, mais je pense qu'il va me planter. parce que je vais peut-être l'ennuyer, je vais peut-être pas l'avoir accroché, je vais pas avoir su l'emmener. Donc j'ai un lecteur essentiellement volatile, pas forcément mortel, mais un lecteur qui est zappeur, un lecteur, les maîtresses vous le diront, qui manque de concentration. Et puis quand c'est un lecteur adolescent, ben, vous savez que ce sont des gens très occupés. Donc il faut véritablement que je les empoigne. Et l'intensité, c'est tout le temps.
La voix de Marie-Aude Muraille qui dit l'intensité, c'est tout le temps et encore plus quand on s'adresse à des jeunes lectrices. Comment vous l'entendez, Clémentine Beauvais, vous qui écrivez justement à destination de tout le monde, dont les jeunes gens?
Je sais pas, je suis prise d'une vision de cauchemar de mourir au milieu d'un Marie-Aude Muraille qui ferait que j'en connaîtrais pas la fin, ce qui serait quand même vraiment horrible. En tant qu'énorme lectrice de Marie-Aude Muraille, bah, c'est sûr qu'elle fait ce qu'elle dit, ça, c'est certain.
C'est-à-dire balancer l'intensité dès le départ?
Ah ouais, bah, c'est inlâchable, hein, Marie-Aude Muraille. Ouais, bah, c'est vrai que c'est important, cette notion. Alors, d'intensité, après, ça peut vouloir dire tout un tas de choses, parce que l'intensité, ça peut aussi être justement délayer, les réponses à une question. Donc, il y a tout un tas de stratégies, ça, c'est sûr, de maintien du rythme, qui sont très, très importantes en jeunesse. Cela dit, elles le sont aussi en littérature adulte. C'est vrai que c'est quelque chose qui est présent partout et parfois on peut être surpris, je trouve, de livres qui nous semblent assez lents en tant que parents par exemple et qui en fait fascinent énormément les enfants parce que
qui sont à destination des plus jeunes
et je pense que c'est parce que l'intensité, ça veut pas forcément dire très rapide, ça veut dire quelque chose qui englue à un texte et parfois ça peut être une intensité émotionnelle, ça peut être une intensité d'image quand c'est des albums. Donc les enfants, moi je suis pas complètement convaincue qu'ils ne soient pas capables de maintenir leur attention autant que les adultes. Je pense que c'est même un peu l'inverse, notamment chez les tout petits qui ont presque du mal à ne pas faire attention à des choses et qui sont très très vite en fait englués dans des histoires. Donc c'est une question de modulation. Bon, en tout cas elle y arrive parfaitement.
Marie-Aude Muraille voulait dire oui. On entendait aussi tout à l'heure notre auditrice Ludivine dire même en tant qu'adulte, et c'est vrai que ce livre-là, il est à destination notamment des adolescents, mais il est à mettre dans les mains de qui a envie de s'amuser à mener l'enquête sur des grands classiques jeunesse. Clémentine Beauvais, vous avez en tête que vos lecteurs RIS ont entre 10 et 15 ans?
Pour celui-là, moi, j'avais quand même un soupçon que, à partir du CM1, CM2, les très gros lecteurs et les très grosses lectrices pouvaient déjà s'en emparer. Et je pense que c'est ça qui est confirmé depuis la sortie du livre. Donc, je suis très contente. Je pense qu'il y a dans les grands lecteurs lectrices de CM1, CM2, une véritable réceptivité à ce type de
texte. Mais dans ce cas, vous les visez? Vous vous dites, ah, ok, peut-être il a 9, 10 ans.
En tout cas, j'y pense beaucoup. Enfin, moi, mon lectorat enfantin, c'est vraiment le premier. Oui, oui. Et après, plus classiquement, pour ce texte-là, les sixièmes, cinquièmes. Je pense aussi beaucoup aux enfants que je vois dans les classes. Je pense beaucoup. J'ai pas un lecteur ou une lectrice type parce qu'il y en a pas. En fait, non. Les lecteurs et lectrices, ils sont tous extrêmement différents. Et puis, comme c'est très nourri aussi de livres que j'adorais moi-même quand j'étais petite, je pense que pour cette tranche d'âge, quand même quelque part, beaucoup il y a moi les livres que j'aimais quand j'étais petite et je sais que c'est une série que j'aurais moi-même aimée quand j'étais petite. Donc c'est aussi important, même si c'est loin d'être la seule chose qu'il faut faire quand on
écrit pour les enfants. De faire plaisir, vous voulez dire ?
Ouais, ou de repenser un peu à ce qui nous emportait. C'est pas du tout un gage de succès, mais en tout cas ça peut aussi aider, en tout cas à donner du cœur à l'ouvrage au sens propre du terme.
Et alors est-ce que oui, dans les deux sens du terme en effet, le cœur à l'ouvrage. Mais et du coup est-ce que vous pensez aux lectrices comme Ludivine, comme moi ou comme Lou qui a préparé l'émission, qui ont depuis longtemps laissé derrière elles leurs 18 ans, et vous pensez à nous donner 2-3 petits biscuits pour nous qui n'avons plus 10 ans?
Mais oui, je pense à vous, bien sûr.
Non, mais vous pourriez très bien ne pas vous en préoccuper et dire de toute façon, alors, les adultes trouveront leur plaisir dans cette histoire.
Alors là, pour moi, j'y ai pensé de manière très très spécifique aussi, dans le fait que pour moi, c'était pensé avec aussi le matériel pédagogique qui l'accompagnait, parce que ça m'intéressait beaucoup. Évidemment, moi, je suis ravie qu'il y ait des adultes qui le lisent et à qui ça plaise. Je suis aussi très ravie qu'on puisse aussi participer avec plein d'autres adultes à réfléchir à cette manière de lire, à ajouter à ce jeu autour des textes, dans les classes, dans les bibliothèques, etc. Donc là, oui, de ce point de vue, j'y pensais aussi beaucoup. Mais quand même, mon lectorat premier, pour moi, c'est toujours quand même les enfants et les ados. C'est très important, oui.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Avec quelqu'un, je n'y pensais pas d'ailleurs, qui a aussi écrit pour les enfants et pour les adolescents. Bonjour Valérie Zenati.
Oui, bonjour Marie.
Vous avez ouvert la saison des lectures d'actu proposées par des écrivains et des écrivaines dans le Book Club chaque lundi cette année et on vous a demandé de revenir pour clore le bal. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ces derniers jours, Valérie ?
Alors Marie, dans un premier temps, j'ai vraiment failli pousser un grand soupir, pas très radiophonique, à l'instar, je crois, de celles et ceux qui se sont succédés à ce micro toute l'année. Sur quelle guerre se pencher, sur quel fait de société insolite, tel cet appel à piquer des femmes lancé sur les réseaux sociaux lors de la fête de la musique samedi dernier. Oui, vous avez bien entendu, piquer des femmes, comme ça, subrepticement, dans la foule, en leur injectant des substances qui entraînent nausées et vomissements. Il y aurait eu plus de 145 victimes, selon Le Parisien ce matin. Dans quel cerveau tordu un tel projet peut-il être conçu ? Dans quel monde vivons-nous ? Et plus globalement, une interrogation de chaque seconde qui peut nous envahir au point de ne savoir vers quel livre se tourner. Sans compter que si vous choisissez de parler d'un sujet, il se trouvera toujours 1 million de personnes au bas mot pour vous reprocher de ne pas avoir parlé de 1000 autres.
Et on comprend bien cet affolement et on comprend que ça a été celui de tous nos chroniqueurs et chroniqueuses de cette année auxquels vous êtes soumises. Mais vous n'allez pas nous quitter sans nous proposer une lecture parce que c'est quand même ça le principe des lectures d'actu.
Non, certainement pas. Et dans cette ambiance un peu relâchée, de fin d'année scolaire, de pré-vacances, je vais même prendre la liberté de vous suggérer une œuvre entière à lire ou à relire, celle de Franz Kafka. Qui d'autre que lui, que sa langue limpide et ses images mystérieuses, pour offrir un refuge, un terrier même, selon le titre d'un de ses textes. Il y a 10 jours, s'est tenue à Paris, au Salon du Livre Rare, la vente d'une collection Kafka, comprenant plus de 400 livres, lettres, gravures, manuscrits de son traducteur Alexandre Vialat et autres éditions originales de La Métamorphose, du Verdict, du Médecin de campagne ou encore Devant la loi. Dans cette collection réunie par Thierry Boucher pendant des décennies, la pièce maîtresse était le jeu d'épreuve du texte Rapport pour une académie. Alors, lorsque l'on parle d'édition, les épreuves ne sont pas douloureuses, ce sont plutôt des feuillets où le texte prêt à être imprimé est mis en page et l'auteur peut encore y apporter quelques corrections, ce que fait Kafka au crayon, ici une virgule, là un point, vous connaissez ça Marie. Mais ces épreuves présentent une rareté sans prix, ou plus exactement vendues à 90 000 euros, car Kafka a tracé au verso de ses pages ses exercices d'hébreu. Il conjugue les verbes consoler, soupirer, combattre, lutter, être jugé, prêter serment, être perplexe, soit le cœur même du vocabulaire kafkaïen. Je dois dire que je n'ai pas pu attirer le texte, mais j'ai été bouleversée en le feuilletant par cette manière de chercher dans une autre langue, sa propre langue, sa vision. Et c'est, je crois, l'effet majeur que produit Kafka lorsqu'on le lit. Il encourage à regarder le monde dans une subjectivité qui nous rend quelque chose de notre liberté. Kafka n'a pas inventé un monde kafkaïen. Il a regardé à sa manière, ce n'est pas la même chose. Changer le monde est impossible, mais le regarder avec nos yeux, dans ces bizarreries qui nous effraient, nous interloquent ou nous amusent plus rarement, est une force, une résistance à l'ensevelissement des récits formatés pour nous aveugler, que certains nous imposent. Lire Kafka, c'est une invitation à réfléchir, dans le double sens du terme, penser et refléter notre condition.
Est-ce que vous nous faites une petite lecture pour nous mettre sur la piste de ces réflexions, Valérie ?
Oui, évidemment. Alors, elle est extraite des Conversations avec Kafka, qui est, comme vous le savez, mon livre de chevet.
Je fais une parenthèse, je le sais, et tous les auditoristes le savent, parce que vous avez déballé votre book club. Vous avez non seulement ouvert le bal des lectures d'actu, mais vous étiez la première à ouvrir votre bibliothèque pour le book club. Rendez-vous dans les podcasts pour nos amis.
Voilà. Le livre de chevet revient, c'est Conversations avec Kafka. Donc, où l'on voit ce lycéen, Gustave Yanou, cheminer avec le grand écrivain et le questionner. Voici la conversation qu'ils ont devant une église. Il dit « Le miracle et la violence ne sont que les deux pôles de l'incroyance. On gâche sa vie à attendre passivement la bonne nouvelle qui y donnera un sens et qui n'arrive jamais, précisément parce que notre attente impatiente nous ferme à elle. Ou bien l'impatience nous fait écarter toute attente et noyer toute notre vie dans une orgie criminelle de feu et de sang. Dans les deux cas, on est dans l'erreur. Et où est la vérité ? Demandai-je. Elle est là, répondit immédiatement Kafka en me montrant une vieille femme agenouillée devant un petit autel près de la sortie. La vérité est dans la prière. La prière, l'art et la recherche scientifique sont trois flammes différentes mais montant du même foyer. On veut dépasser les possibilités personnelles assignées à la volonté dans l'instant. Se placer au-delà des limites étroites de son moi. L'art et la prière, ce ne sont que des mains tendues dans l'obscurité. On mendie pour faire don de soi-même. C'est pas beau, ça. Alors, ces pages sont traduites par Bernard Lortolari, chez Maurice Nadeau. On pourra aussi se procurer le catalogue de la collection évoquée plus haut, à la librairie Faustrol. Le tirage est de 800 exemplaires, faites vite. On se tournera peut-être vers les 3 volumes de l'immense biographie de Rainer Starr, magistralement traduit par Régis Tiatresous au Cherche Midi. On pourra acheter n'importe quel texte de Kafka, à vrai dire, et y trouver un ami exigeant, d'abord avec lui-même, et surtout, comme il le dit dans les conversations, la liberté, c'est la vie. On sera donc libre d'entrer dans une librairie sans idée d'achat préconçue, se laisser surprendre par un titre, une couverture, un conseil de libraire. Oui, mon conseil final du jour et de l'année, Marie, est que chacun, chacune se fasse cadeau d'un livre qui sera intimement celui du moment, reflet de cette subjectivité essentielle, caisse de résonance des voix murmurées que vous défendez chaque jour ici avec toute votre équipe. Merci pour cela. Mesurons notre chance de vivre dans un pays qui n'est pas bombardé et qui compte l'un des réseaux de librairies le plus important au monde. Bon été et bonne lecture à toutes et à tous.
Merci infiniment Valérie Zenati pour cette dernière lecture d'actu et merci beaucoup à toutes les autrices et auteurs qui se sont relayés sur votre siège et à ce micro. On peut le réécouter sur franceculture.fr. Ah là là, c'est la dernière semaine du book club, du coup tout va être émouvant. Le grand jeu des pages musicales, c'est un jeu où on propose à nos auditeurs, à nos auditrices de chercher de la musique dans les livres. On en a trouvé dans le vôtre, Clémentine Beauvais, donc on se quitte avec un extrait. Vous levez les yeux au ciel parce que ça y est, vous avez deviné.
Ben, en fait, on en a parlé tout à l'heure, on spoil pour les auditeurs. Donc c'est j'avais deviné tout à l'heure.
Ah là, d'accord. On y va, c'est un extrait de votre livre, L'Affaire Petit Prince. Énorme succès pour cette première journée de l'exposition Saint-Exupéry à la Bibliothèque Nationale de France, dirigée par le jeune prodige de la chevalerie de lecture experte, Lucie Vol-de-Nuit, dont... L'air dégoûté, Bayard, qui venait de passer la porte d'entrée de l'immeuble, changea le réglage de la radio laissée allumée sur une pile de pavés. Un air célébrissime des Kinks éclipsa l'émission culturelle et accompagna les réflexions de Bayard sur les trouvailles de Minuit Pile qui venait de repartir compléter son enquête. C'était étrange, certes, cette histoire de Boa. Pourquoi commencer un livre pour enfants en se moquant des adultes qui verraient un chapeau là où les enfants eux-mêmes ne verraient qu'un chapeau ? Cela soulevait des questions gênantes quant au pilote lui-même. Si ni enfant ni adulte ne reconnaissait jamais son Boa, alors était-il fou ? Bayard était moins préoccupé que Minuit Pile par les erreurs zoologiques. Le pilote pouvait se tromper, exagérer, mentir, enfin toutes ces choses que les narrateurs font tout le temps, mais ses premières pages lui laissaient quand même une trouble impression. Elles semblaient remettre sans cesse en jeu les règles mêmes de la réalité. Merci beaucoup Clémentine Beauvais d'être venue ici au Book Club parler de l'affaire Petit Prince paru aux éditions Sarbacane. Dans l'ordre.
Merci Marie.
Générique.
Au son, Grégory Wallot.
À la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et en particulier aujourd'hui à Lou Quevauvillier.
Vous pouvez réécouter l'émission sur l'application Radio France.
Je suis Rosalie.
Je suis Juliette. Nous sommes en stage au Book Club.
Bon après-midi sur France Culture.